אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 29, מאמר תורת הקבלה ומהותה, כותרת נתינת רשות.
Bonjour, nous étudions les écrits du Baal HaSulam, l'article l'enseignement de la Kabbale et de son essence. Nous poursuivons la lecture à la section permission donnée. Comme d'habitude, nous allons essayer d'être ensemble pour nous réjouir de la lumière qui est dissimulée. Permission donnée. Je suis heureux d'être né dans une génération qui a déjà été autorisée à publier la sagesse de vérité. Si vous me demandez comment sais-je que cela est permis? Je vous répondrai que j'ai reçu la permission de la révéler, car jusqu'à présent, les moyens par lesquels il était possible de s'engager publiquement et d'expliquer totalement chaque mot n'avaient été révélés à aucun sage. J'ai aussi juré à mon maître de ne rien révéler, comme l'ont fait tous les étudiants avant moi. Cependant, ce serment et cette interdiction s'appliquent uniquement à ces manières qui étaient transmises oralement de génération en génération, depuis les prophètes et avant. Si ces façons de transmettre avaient été révélées au public, elles auraient causé beaucoup de tort pour des raisons connues uniquement de nous. Néanmoins, la façon dont je m'engage dans mes livres est autorisée. Qui plus est, mon professeur m'a ordonné de diffuser autant que je le pouvais. Nous l'appelons la façon de revêtir les sujets. Vous verrez dans les écrits du Rajbi qu'il appelle cette voie « donner la permission » et c'est ce que le Créateur m'a donné dans sa mesure la plus complète. Nous croyons que cela ne dépend pas du génie du sage, mais de l'état de la génération, comme nos sages nous l'ont dit. Petit Samuel était digne, etc., mais sa génération ne l'était pas. C'est pour cela que j'ai dit que tout mon mérite quant au fait de révéler la sagesse vient de ma génération. Des questions? Il est clair, comme il dit, qu'il a reçu la permission, et sous le cadre de cette permission, et rien de plus, il a ouvert la sagesse et a écrit ces choses pour nous. Et d'une façon permise, comme il l'a dit. Alors, qu'est-ce qui est interdit maintenant? C'est-à-dire qu'il en a aussi besoin, mais il ne le révèle toujours pas, mais le temps viendra où ce sera révélé aussi. Alors, il n'y a pas de question. Mais qu'est-ce que ça veut dire en raison des générations? Les générations, c'est le développement. Par exemple, comment est-ce que nous sortons? Baal HaSulam a dit que le temps était venu pour la correction générale du monde entier, qui n'était pas devant lui. Jusqu'à ce que, au début, jusqu'aux années 20, aux années 30 du 20e siècle, il était interdit de révéler au monde entier, mais seulement à quelques personnes qui étaient religieuses. Nous savions qu'il était un disciple sage et sérieux, etc. Il y avait des conditions. Tandis que tout d'un coup, toutes les générations en sont venues à un état où elles se sont tellement développées que pour révéler à la multitude, et ça c'est le grand commandement, la grande mitzvah, c'est que la sagesse doit maintenant être révélée, et c'est ce qu'il a fait. Il a écrit pour nous des choses qui avant lui n'étaient pas écrites, et peut-être qu'il pouvait l'enseigner oralement à quelques poignées d'élus, mais non, et lui il a écrit, et il a transmis ça à tout le monde et il a donné la permission à tout le monde à partir de lui pour la diffuser autant que possible. Mais c'est quoi cet état de notre génération? Notre génération est telle qu'elle doit avancer autant que possible au-dessus des hauteurs et en largeur. Les hauteurs, c'est nous, tant que nous en sommes capables, et de diffuser d'une façon large et dans toutes les directions sans limitation. Et c'est ça que notre organisation a pris sur elle de faire et c'est ce qu'elle a fait depuis les 20 dernières années, et même plus. Depuis 92 ou 93, et même auparavant, mais auparavant, c'était dans les frontières d'Israël. À partir de 90, 91, 92, nous avons commencé à répandre ces choses au monde entier. Alors, notre avancement dépend de notre génération? Oui, certainement. Et n'eût été notre génération qui mérite une correction, nous n'aurions pas reçu la sagesse de la Kabbale, parce que toute la correction, c'est parce que nous pouvons promouvoir ces corrections pour qu'elles influencent la génération et qu'elles en viennent un don le plus large possible et les gens, le public en général, va se rapprocher de la correction parce que la correction est spécialement s'effectue spécialement dans les masses et d'une façon la plus large possible dans un public le plus large possible et là, ce public se mettra à avancer vers la sagesse du ou la connaissance du Seigneur. Mais la hauteur, ça dépend de la génération. La hauteur spirituelle, bien sûr, mais moi, je dis quelque chose d'autre. C'est que si la génération n'était pas, qu'elle n'en avait pas eu besoin de diffuser la sagesse, de la promouvoir, de mettre de l'avant le processus par lequel le public en général doit passer, lorsque nous parlons du système en général, les corrections qui doivent être faites par tout le monde. Si nous ne pouvions les diffuser, les en faire la promotion au public en général, nous ne pourrions rien recevoir non plus pour notre propre correction, parce que nous n'aurions aucun besoin de nous corriger nous-mêmes, mais nous avons besoin de nous corriger seulement en raison des kélims extérieurs et très larges qui sont devant nous. Le Créateur, lui, ne désire pas Israël, il désire la correction. Israël n'est qu'une transition, comme nous l'avons appris à partir des articles de l'Arvut, Matan Torah, par exemple. Et si nous sommes prêts à être ce conduit, cette transition, et alors la Torah et les corrections viendront. Mais si nous ne jouons pas notre rôle, alors nous sommes en exil, comme nous l'avons été pendant très longtemps. Mais jusqu'à ce que toutes les nations du monde, toute l'humanité avance tellement qu'elle ne puisse plus digérer les corrections, les recevoir, les accepter. Et c'est pourquoi il nous faut comprendre à quel point tout notre groupe et tous les groupes, nos groupes outre-mer, en Russie, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, à quel point ils sont importants. Et si nous ne prenons pas soin d'eux, nous-mêmes n'allons pas avancer. Alors, si nous cessons de nous soucier de tous les gens, nous allons aussi cesser notre avancement et nous ne recevrons rien d'autre. Tant que nous nous élevons au-dessus, ce n'est que pour nous répandre horizontalement. Mais prendre soin de qui? De toutes les nations du monde. Comme Balasulam l'a écrit, que nous sommes déjà dans les jours du Messie. Mais Israël, tout d'un coup, nous allons nous mettre en relation avec le monde. Oui, certainement, mais c'est Israël qui sont tous les groupes, tout le Bnei Baruch mondial. Il y a Israël, les Juifs en Israël, sur la terre d'Israël, et les autres qui sont dans toutes les nations du monde. Suivant leur penchant, ils sont appelés Israël. Mais pourquoi Israël lui-même est aussi divisé? Parce que c'est toujours comme ça. Ça va même te permettre de faire encore plus de discernement en raison de cette séparation. Ça vient de la nature de la correction. Ça vient de Havaya, Yudke, Vavke, les 10 séphirotes originelles. Et 70 nations du monde, et en Israël, c'est les Cohen, les Lévi, puis Israël, il y a plusieurs degrés. Nous avons les 12 tribus, nous avons plusieurs parties, divisions. Mais comment sommes-nous égaux dans le Kli Olami? Mais à travers notre penchant vers le Créateur pour le révéler. Mais en cela aussi, nous avons néanmoins un supérieur, un inférieur, et etc. Et tout ça, ça existe néanmoins, mais ce n'est pas une hiérarchie en ce qui a trait au fait d'exceller d'une certaine façon, mais c'est la structure qui est comme ça. Moi, je n'ai pas à être condamné parce que je suis né au 20e siècle et d'autres sont nés, disons, 200 ou 300 ans auparavant. Alors là, j'aurais été prêt d'être dans une génération qui aurait révélé la sagesse de la Kabbalah autrement. Mais si ça vient, ça vient suivant le système. Nous faisons tous partie des particules d'un même système. Mais notre avancement dépend de ce souci de, oui, des extérieurs. Quel extérieur? C'est que tout le monde, peu importe qui est sous moi et que je suis prêt à passer ma sollicitude, mes connaissances et tout, et par cela, là, je suis digne de me connecter au Créateur, parce que je ne suis qu'une transition. C'est ça mon rôle. Mais ça a à voir avec quoi l'ordre? Mais tous ceux qui sont sous moi sont importants et plus je peux m'étendre en largeur, plus ils sont importants parce que c'est de ça dont dépend ma connexion au Créateur. Bala Sulam lui a été récompensé avec la hauteur de l'atteinte ou son aptitude à expliquer. Je ne peux pas dire. Il a tout mérité. Point final. C'était son rôle, c'était la racine de son âme. Mais quelque chose de sérieux, hein, pas ta question là. Quelle est la différence entre les Juifs et le point dans le cœur et le Kli mondial? Et quelle est la différence? La différence entre nous, c'est que eux aussi sont appelés Israël, et ici on est appelé Israël, bien sûr, sauf que certains sont appelés Israël depuis Yesharkel, et d'autres, les Yehoudis, qui sont Israël, les Juifs en Israël, du fait qu'ils ont reçu cette connexion au jour d'Abraham, et c'est tout. Alors, c'est la différence dans les systèmes où nous nous trouvons, mais en vérité, sa correction est beaucoup plus essentielle que la tienne. Et par conséquent, il nous faut construire maintenant une connexion plus serrée entre toutes les parties de notre système. Et là, nous allons tous commencer ensemble à révéler le Créateur et à attirer la lumière qui corrige, et vous verrez comment ça va se mettre en place. Mais auparavant, il nous faut clarifier qui nous sommes, comment nous faut travailler, et il n'y a pas de grand ou de petit en cela, ou ceux qui sont préférés par rapport à d'autres, non. Parce que plus nous sommes éloignés, plus grand est le besoin pour la correction, et plus ils appartiennent aux premiers de l'âme, et ils ont à à travailler davantage pour les inférieurs. Et à la fin, tout le monde travaille ensemble. C'est comme... C'est comme s'il nous fallait connecter, disons, en arriver à une certaine productivité et, ou quelque chose. Et là, il y a un voltage, un ampérage. Et il y a plus de voltage, moins d'ampérage. Mais c'est comme ça que nous obtenons le voltage. Nous en reparlerons. Noms abstraits. C'est une erreur grave de penser que la langue de la Kabbale utilise des noms abstraits. Au contraire, elle ne touche que le domaine pratique. Effectivement, il y a des choses dans ce monde qui sont réelles, même si nous ne les percevons pas, comme l'aimant et l'électricité. Mais qui pourrait être suffisamment stupide pour dire que ce sont des noms abstraits? Après tout, nous connaissons très bien leurs actions et que nous importe-t-il de ne pas connaître le nom de leurs essences? À la fin, nous les appelons comme des choses sûres par les noms des actions auxquelles ils se réfèrent. C'est le nom réel, mais même un enfant qui apprend à parler peut les nommer s'il commence à sentir leur action. C'est là notre loi. Tout ce que nous n'atteignons pas, nous ne le nommons pas. C'est-à-dire que dans notre monde, il y a aussi de tels phénomènes que nous n'atteignons pas véritablement, mais nous atteignons plutôt les phénomènes à partir de ceux-là. L'électricité, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Et ils disent que c'est le mouvement d'électrons dans un fil ou un métal ou quoi que ce soit, mais qui le sait? Qui peut reconnaître cela? Et ça ne semble pas réel, c'est comme le résultat de quelque chose. Mais oui, il y a d'autres forces comme la force de la gravité aussi, peu importe quoi. Tout notre monde se révèle d'une façon étrange, je dirais, vis-à-vis de nous. Mais nous sommes habitués à donner des noms à différents phénomènes et à travailler avec tous ces phénomènes comme si c'était quelque chose qui était véritablement révélé, disons l'électricité. Tout se construit à partir de l'électricité. Regardez ce qui arrive ici, en notre monde. Que pourrions-nous faire sans électricité? Mais qu'est-ce que l'électricité? Personne ne sait, personne. Nous savons l'action qui se révèle par toutes sortes de dispositifs et rien de plus. Et c'est la même chose lorsque nous parlons de la spiritualité. Nous ne savons pas ce qu'est la spiritualité, mais il nous faut construire de tels dispositifs en nous, à l'intérieur de nous, pour que nous révélions les résultats qui nous viennent d'actions spirituelles et de forces spirituelles ou du Créateur. Et ça, là, c'est révélé. Où? En nous. Prochaine section. L'essence n'est pas perçue dans la matérialité. Qui plus est, même les choses que nous imaginons, nous n'atteignons pas leur essence, comme les pierres ou les arbres. Qu'après un examen minutieux. Nous restons donc avec le niveau zéro de leur essence, car ce que nous atteignons n'est que leurs actions, qui nous parviennent uniquement à travers l'interaction de nos sens avec elles. C'est ce dont nous venons tout juste de parler, dit Rav. Section une âme. Par exemple, quand la Kabbale dit qu'il y a trois forces, un, le corps, deux, l'âme animale, et trois, l'âme sacrée, cela ne se réfère pas à l'essence de l'âme. L'essence de l'âme est fluide. Elle est ce que les psychologues appellent le moi et les matérialistes l'électrique. C'est une perte de temps de parler de son essence, car elle n'est pas ordonnée par le ressenti de nos sens, comme tout ce qui touche à la matérialité. Cependant, en voyant dans l'essence de ce fluide trois types d'actions dans le monde spirituel, nous les distinguons par des noms différents, selon les opérations effectuées dans les mondes supérieurs. Ainsi, il ne s'agit pas de noms abstraits, mais de noms tangibles dans le plein sens du terme. C'est-à-dire que nous ne connaissons pas la spiritualité, mais le phénomène de la spiritualité, nous le ressentons sur nous. Nous pouvons le mesurer, nous pouvons lui donner différentes directions, différents noms, même si le phénomène lui-même ne nous est pas connu, mais seulement le résultat, comme avec l'électricité. Et alors, ça chauffe, ça refroidit, ça fait ceci et cela, c'est-à-dire des résultats qui nous viennent de l'électricité, même si l'électricité elle-même est abstraite. Et c'est la même chose en ce qui a trait au discernement spirituel. D'accord? Pas de questions, nous allons continuer. Oui. C'est quoi cette âme animale? Tu ne connais pas l'âme animale, c'est une force de vie en toi. C'est une force qui apporte une certaine subsistance. Section l'avantage de mon commentaire sur ceux qui l'ont précédé. Nous pouvons nous aider d'enseignements séculiers dans l'interprétation de la sagesse de la Kabbale, car la sagesse de la Kabbale est la racine de tout, et tous sont inclus en elle. Certains ont recouru à l'anatomie, comme de ma chair je verrai mon Dieu, et d'autres ont recouru à la philosophie. Ces derniers se sont davantage servis de la psychologie, mais tous ces commentaires ne sont pas considérés comme vrais, car ils n'interprètent rien de la sagesse de la Kabbale elle-même, mais ne font que montrer comment toutes les sagesses sont incluses en elle. C'est pour cela que les lecteurs ne peuvent être accompagnés d'un endroit à l'autre. Même si de tous les enseignements extérieurs, la sagesse du service de Dieu est la sagesse la plus proche de la sagesse de la Kabbale. Inutile de dire qu'il est impossible de céder une interprétation suivant d'autres sciences comme l'anatomie ou la philosophie. C'est pourquoi j'ai dit que je suis le premier interprète d'après la racine et la branche, ainsi que de cause à effet. Ainsi, si quelqu'un comprend quelque chose à travers mes commentaires, il peut être certain que partout, ce sujet apparaîtra dans le Zohar et les Tikkunim, et que cela peut l'aider, comme les commentaires littéraux où vous pouvez être aidé par un lieu pour tous les autres lieux. Les styles d'interprétation des enseignements extérieurs sont une perte de temps, car ils ne sont pas un témoignage de l'authenticité des uns par rapport aux autres. Et un enseignement extérieur ne nécessite pas de témoignage, puisque la Providence a préparé cinq sens pour témoigner de lui. Et dans la Kabbale, nonobstant, on doit comprendre un argument avant de témoigner de cet argument. C'est-à-dire que Bala Sulam a arrangé pour nous un système et nous l'a expliqué. Ce n'est pas qu'il l'a arrangé, mais c'est le système des cieux qui nous a expliqué d'une façon si complète, si ronde, si que nous pouvons maintenant les saisir d'une certaine façon, nous y accrocher. et à chaque fois ajouter dans notre étude au système des détails supplémentaires et parce que la forme du système est telle que je ne peux tout simplement pas m'y retrouver. Tandis que toutes les explications avant le Balasulam étaient des pièces de choses qui ici et là dans des langues différentes, c'est-à-dire que les différents langages de la Kabbale et la Halakha, le Midrash, mais il a pris la sagesse de la Kabbale, le langage de la Kabbale et a commencé à nous expliquer le système à partir du début jusqu'à sa fin. Et c'est pourquoi, après lui, nous n'avons plus de problème. Si nous apprenons correctement, nous ne nous embrouillerons pas et nous pourrons toujours ajouter, vraiment comme n'importe quelle autre science. D'accord? Mais qu'en est-il des kabbalistes qui creusaient dans la sagesse et ou pas les mathématiques ou la médecine? J'avais tellement de livres de médecine et aussi de plonger dans le Zohar et les corrections, il peut y avoir une confusion là qui est immense. Tu devrais voir ma bibliothèque à la maison. Toute personne qui l'a vue s'en souvient. Tout un pan de mur. Et je ne prenais pas un seul livre de cette bibliothèque, sauf les écrits du Balasulam. Tout le reste, je l'ai laissé là. On ne peut même pas les lire. Après lui, il n'y a rien que nous puissions faire. Je me souviens que au début de mes études, j'allais voir Hillel. Il vivait aussi près du Rabash et je suis allé à son appartement et j'ai vu une étagère sur le mur. Et sur elle, l'étude des 10 séphirot et le Zohar. Et les prières Sidour. Et j'ai regardé dans le boudoir et je m'attendais à ce qu'il y ait plusieurs centaines de livres, comme n'importe quel homme religieux, et je lui ai demandé où sont les livres. Et il m'a dit, mais je n'ai besoin de rien d'autre, j'ai déjà ce dont j'ai besoin, simplement. Et c'est une personne qui avait la soixantaine et qui avait étudié toute sa vie, un homme religieux, un orthodoxe. Et il a dit, je n'en ai pas besoin, pourquoi? C'est tout ce que j'ai. Et pourquoi en aurais-je besoin d'autre chose? Et lorsqu'est venu le temps pour moi de déménager de mon appartement, je n'ai rien pris d'autre que ces livres. Ah, nous allons continuer. Il dit ici que dans la Kabbale, la sagesse extérieure, il y a comme 5 sens, comme un témoignage. Mais dans la Kabbale, il nous faut comprendre qu'il y a des choses avant d'en arriver à témoigner des arguments. Ah, attends, ça viendra, ce n'est toujours pas pour nous, ça.
Magia.
Nous y viendrons. Je ne veux pas que ouvrir maintenant des choses qui seront révélées plus tard, mais elles sont révélées et nous nous en soucierons autant où nous les révélerons. Mais il pourrait y avoir des problèmes qui se révèlent sont des problèmes réels et il nous faut nous en soucier. Et c'est de cette façon dont fonctionne la correction. Nous devons voir que dans chaque chose, la question de la difficulté, des problèmes, des questions dans cet ordre, disons que nous avons certains problèmes dans la connexion entre nous et dans la compréhension des mondes du Kliolami et eux à notre égard pour qu'ils puissent nous comprendre et nous, il faut ouvrir davantage le système et expliquer conformément et voir comment le roche se divise en différentes parties, le gouffre en différentes parties, il y a ceci et cela et nous, il nous faut travailler sur ces corrections et ensuite ça va se mettre en place. Nous allons passer à travers tout ça aussi. Oui, toi, tu voulais poser une question?
Non.
Il y a une phrase, tu pourrais la répéter? Même si la sagesse du Créateur est plus près de la sagesse de la Kabbale que toute autre sagesse. Mais c'est quoi ce travail qui est plus près de la sagesse de la Kabbale? La sagesse de la Kabbale, c'est ce qui parle de la structure de toute la réalité. Les Sephirot, les Parsoufim, les Rishimot, le Massar, les Massachim, toutes ces choses sont appelées la sagesse de la vérité. Et sans une personne, sans ce qu'elle est, tout comme nous l'apprenons dans l'étude des 10 Sephirot. Et dans l'étude des 10 Sephirot, vous entendez des choses qui parlent d'une personne, s'il y a une personne là, non. Et ça, c'est ce que nous appelons la sagesse de la Kabbale. Comment une personne peut entrer dans la sagesse de la Kabbale et gravir les degrés de la révélation du Créateur et ainsi de suite? Et ça, c'est ce qui nous appelle le travail spirituel d'une personne ou l'œuvre du Créateur. Ils sont proches l'un de l'autre, mais ceci d'un côté, ceci de l'autre. Et nous avons aussi dans chaque science, la science elle-même, disons la physique, et puis nous avons la pédagogie, ou comment apprendre la physique, comment l'assimiler, quel exercice nous pouvons faire. Ça, c'est une partie, et ça, c'est une autre partie, parce que la physique elle-même existe à l'extérieur d'une personne. Et de la saisir et de l'enseigner, ça dépend vraiment de la structure d'une personne, comment elle la comprend, comment elle la saisit d'une façon qui est la plus facile pour lui de s'y revêtir. Et ça a vraiment à voir avec une personne elle-même. Mais Mouti parlait de la sagesse du Créateur et l'œuvre du Créateur. Oui, c'est principalement les écrits du Rabash. Et Bala Sulam, lui, est principalement la sagesse de la Kabbale. Ça, ça a à voir avec le travail de l'homme, ce qui est appelé le travail du Créateur, et ce qui a à voir avec la structure de la réalité, c'est ce qui s'appelle la sagesse de la Kabbale. Rabash n'était pas là lorsqu'il a écrit ces choses, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le fait qu'il était là ou qu'il n'y était pas? Mais j'essaie de comprendre c'est quoi l'œuvre du Créateur. Mais je te l'ai expliqué ce que c'est. Bala Sulam aussi a écrit là-dessus sur le travail du Créateur et il a mis ça sous l'ordre d'une échelle et quoi dans Shamati, il n'en aurait pas parlé. C'est Bala Sulam qui a parlé de ces choses et Rabash lui a écrit après. Mais il dit aussi qu'au préalable, il y avait des choses différentes, que la sagesse de la Kabbale parlait de choses qui étaient atteignables et que la sagesse de la Kabbale, c'est des parties fines, des séphirotes, ainsi de suite. Alors comment ces parsufim et ces séphirotes deviennent tangibles? Mais ça dépend d'une personne. Avec le travail du Créateur, où on devient plus près de cet état où ces choses dont nous parlons dans la sagesse de la Kabbale deviennent pour une personne tangible. Qu'est-ce que tangible? C'est-à-dire qu'elle pénètre ses sens. Alors une personne construit de tels sens que maintenant elle ressent en eux ce qui est écrit dans la sagesse de la Kabbale. Pour faire de la sagesse de la Kabbale une chose tangible et sensible, ça se fait à travers l'œuvre du Créateur ou le travail spirituel. Alors ici, tu as une personne, tu as la sagesse de la Kabbale, tu as le travail qu'une personne doit faire pour qu'elle se mette à ressentir la sagesse de la Kabbale, et ça, c'est appliqué en raison de tout ça, ça deviendra tangible, mourachir, c'est que ça pénétrera ses sens. D'accord? Mais il est écrit ici que Bala Sulam a écrit plusieurs livres pour les interpréter. Non, mais ça, c'est Bala Sulam lui-même qui a écrit cela. Oui, mais ces livres, pour ceux qui n'étaient pas dans le monde spirituel, les gens qui étaient déjà, est-ce qu'ils ont des livres différents? Non, dit Rav. Tu n'as pas besoin d'autres livres. Tu as l'étude des Sephirot, le Zohar, et afin d'atteindre ce qu'il écrit, tu as besoin des écrits du Rabash. Lorsque tu te mets à atteindre ce que Bala Sulam a écrit, tu as déjà besoin davantage de ses écrits. Tu as besoin de l'étude des 10 Sephirot. Et alors, dans tes efforts, tu invites, tu attires à toi la lumière qui corrige, elle brille sur toi, et ensuite tu comprends et tu ressens ce que Bala Sulam écrit dans l'étude des 10 Sephirot. Et il l'a déjà révélé, là. C'est tout.
Non.
Je
pourrais clarifier quelque chose d'avant. Bala Sulam a écrit que heureuses étaient les générations d'avoir été récompensées avec la sagesse de la vérité. Mais les générations, la génération avec Bala Sulam, n'avait rien entendu de tout ça. Mais ça n'a rien à voir avec la révélation, quoi. Le fait qu'il n'était pas à Hollywood ou qu'il n'ait rien, qu'il n'ait pas fait la promotion en ce sens, d'une telle façon, non. Les kabbalistes évitaient de révéler les choses avant lui, et lui, il a écrit d'une façon très directe, d'une façon révélée. Il a écrit d'une telle façon que maintenant, nous pouvons lire, écrire, étudier, copier, promouvoir, parce qu'il l'a écrit. Quoi, on a quelque chose de nouveau à dire à ce propos, non? Mais alors, la génération, ça veut dire d'ici et plus avant? Oui, oui, à partir de lui et de l'avant. Il y a de ça une centaine d'années, la sagesse de la Kabbale a commencé à se révéler d'une façon d'une telle façon que maintenant, ça pouvait se révéler à toute personne dans le monde, un juif, un non-juif, un jeune, un vieux, peu importe. Tout le monde, maintenant, avait la permission de révéler la sagesse. C'est pourquoi nous sommes la génération du Messie. Et là, nous pouvons tous attirer à nous la lumière qui corrige et en venir à la fin de la correction. Mais c'est incroyable qu'un kabbaliste était heureux de découvrir, de révéler, et personne d'autre ne le connaissait. Et ils auraient dû être heureux de pouvoir découvrir... c'est bien qu'il ne l'ait pas entendu. De toute façon, on dit Rav, il a eu des problèmes en raison de tout ça. Et parce que, en raison de ses mots, jusqu'à aujourd'hui, il y a une grande haine envers lui. Mais aujourd'hui, le monde est déjà différent. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est bien que nous ayons terminé les Tikkuni HaZohar aujourd'hui. Et maintenant, nous allons pouvoir consacrer davantage de temps aux écrits du Bala Sulam. D'accord? Ouais, je n'entends pas que vous êtes heureux.
Shabbat Shalom.